Le cours de l'or peut-il, oui ou non, atteindre 3000 dollars en 2025? Chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Je suis ravi de vous retrouver pour parler du gold. Le gold qui marque le pas en bourse depuis le début du mois de novembre, depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, sous pression en comparaison d'un cours du Bitcoin qui s'est enflammé, d'un cours des altcoins qui se sont enflammés. Et forcément, cet arbitrage qui a été favorable aux crypto-monnaies et défavorable pour le moment à court terme aux métaux précieux va-t-il durer l'ensemble de l'année 2025? En clair, le cours de l'or a atteint 2790 $. Alors moi, vous saviez que je vous ai proposé une stratégie bullish qui remonte à la fin de l'année 2023 et au début de l'année 2024, lorsque l'or a cassé son ancien record historique, vous proposant une cible basée sur mes extensions de Fibonacci à 2700 $. Le marché a fait 2790 $, target reach, en gros, est-ce terminé? Ou y en a-t-il encore sous le pied? Fondamentalement, la tendance haussière de fond est toujours présente sur le cours de l'or. Il n'y a pas eu de cassure de support majeur, il n'y a pas eu de pattern de renversement baissier, il n'y a pas eu d'invalidation d'un certain nombre de facteurs fondamentaux qui soutiennent la tendance haussière du gold. Alors, en clair, même si toute l'attention se tourne en direction de Bitcoin. Oui, alors, la comparaison tient la route. D'ailleurs, je vais en parler. Non, parce que, par exemple, prenez ce que dit Larry Fink, patron de BlackRock. Voyons en Bitcoin l'or numérique. Bien sûr, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. En tout cas, d'un point de vue financier, l'arrivée des ETF crée les conditions de cette comparaison. Bon, la question, l'or peut-il, oui ou non, atteindre 3000 $ en 2025? L'or peut-il, oui ou non, dans le courant de l'année prochaine, dépasser son record établi, il a, en octobre, à 2790 $ sur le gold? Première partie, les conditions fondamentales à réunir. Oui, car l'analyse technique est une chose. D'ailleurs, elle a produit des effets extrêmement favorables et pertinents sur le cours de l'or. Des cas d'école, un cas d'école technique. Fractal, chartiste. Mais tout ça se base sur des fondamentaux. Donc, première partie, je vous fais un tour d'horizon. Les fondamentaux à réunir, nécessaires pour envisager que l'or puisse aller à 3000 $. Et naturellement, si ces fondamentaux ne sont pas réunis, la réponse est non à la question que pose cette vidéo. Deuxième partie, les conditions techniques, chartistes, techniques, à préserver pour ne pas retourner cette tendance haussière, pour ne pas terminer, to terminate, dans le sens interrompre pour de bon la tendance haussière du gold. Quelles sont ces conditions techniques à préserver? Je les passe en revue avec vous. Et enfin, troisième partie, gold versus Bitcoin. Bitcoin versus gold. Cette tendance haussière de fond du gold est-elle menacée par tous ces capitaux qui se dirigent massivement vers les ETF gold? C'était déjà le cas avant la victoire de Donald Trump, cela a été accéléré. Peut-on comparer les choux et les carottes? Y a-t-il une base de comparaison? Mais vous allez voir que oui, on va pouvoir comparer les chiffres. Je vais vous montrer toutes les datas des ETF gold, les datas des ETF bitcoin. Nous allons regarder du côté du ratio bitcoin-gold. Alors après, je vous le dis, même si Bitcoin va chercher 200 000 $ en 2025, ça c'est mon anticipation, c'est pas ça qui fera que l'or ne pourra pas aller chercher ses petits 3000, d'accord? Les deux peuvent monter ensemble. En fait, ensuite, c'est une histoire de comportement relatif. C'est parti. L'or peut-il, oui ou non, atteindre les 3000 $ en 2025? C'est parti, les amis. Le plan, je viens de vous le donner, je déclare la session ouverte. Nous sommes à l'Opéra Bassi, l'Opéra Garnier, le rideau s'est ouvert. Et donc, voici, après s'être approché des 2800 $, le cours de l'or marque le pas en bourse depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle US. Pendant ce temps, c'est le Bitcoin qui a attiré les capitaux avec un mois de novembre exceptionnel. L'or a-t-il les capacités fondamentales et techniques pour se relancer et atteindre les 3000 $ durant l'année 2025? Les trois parties sont donc ici, mises à l'écrit cette fois-ci. Les conditions fondamentales à réunir pour relancer la tendance haussière de fond du gold, les conditions techniques à préserver pour ne pas terminer la tendance haussière, et enfin, l'or peut-il résister à Bitcoin et ses ETF? On attaque. Alors, première partie, l'or à 3 000 $ en 2025. C'est la question. Les conditions fondamentales à réunir pour rendre ce scénario crédible. Alors, lorsqu'on parle des conditions fondamentales du gold, nous parlons de l'offre et la demande de gold. En clair, qu'est-ce qui crée l'achat et la vente de gold? Il y a un certain nombre de facteurs qui agissent, mais retenez que, grosso modo, c'est la demande financière ou financière de gold, la demande physique, naturellement, la joaillerie, et la demande des banques centrales. Ce sont les trois piliers de la demande de gold. La joaillerie, la demande financière ou financière, et la demande des banques centrales. Alors ensuite, il y a la demande d'or en produits technologiques, il y a des petites demandes, mais en gros, ce sont les trois piliers. Donc nous allons les passer en revue, voir où elles en sont, et puis aussi toutes les corrélations qui agissent. Et donc j'ai essayé de tout rassembler dans un tableau et de vous proposer cet état des lieux. Mais grosso modo, pour que l'or puisse aller chercher ces 3 000 $, il va falloir une conjonction de soutien des trois principales demandes. Celle en joaillerie, regardez la part dans la demande d'or de la demande industrielle. Alors, industrielle, oui, industrielle si on veut, l'industrie de la joaillerie, de la Chine et de l'Inde. Celle des banques centrales, bien sûr, et bien sûr toute la demande financière ou financière, la demande d'investissement qui passe essentiellement par les ETF. Je voulais vous rassembler, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est ici. Je vous ai remis ici les datas, donc je suis sur cet excellent site hein, du World Gold Council, donc c'est une association qui rassemble les principales compagnies minières de gold, et donc voilà, c'est toujours intéressant de voir trimestre après trimestre l'évolution de la part relative des différentes demandes de gold, la demande donc l'industrie, la joaillerie, la demande en technologie qui a toujours une part moins importante, la demande d'investissement et la demande des banques centrales. Et vous voyez que trimestre après trimestre, la part de ces demandes varie. Mais grosso modo, les trois principales demandes sont donc la demande des banques centrales, la demande d'investissement, alors ce sont les contrats futurs, les options, les ETF, et la demande physique, donc essentiellement l'industrie de la joaillerie pour le gold. Alors, voilà donc l'état des lieux que je peux vous proposer. L'or à 3 000 $ en 2025, l'or à 3 000 $ en 2025. Alors, l'or à 3 000 $ en 2025, simplement déjà, pour reprendre un peu de recul. Voilà où nous sommes. Donc, moi, j'avais cette cible. C'est la deuxième partie, la partie technique. Hein. Donc, les 3 000 ne sont pas loin. Ça vous montre quand même. Alors, c'est très cyclique, le gold. Les impulsions, les longues phases d'orange, les impulsions. Là, je suis sur un graphique de. J'ai 50 ans d'historique. Hein. Retracement, impulsion. L'idée, voilà, c'est est-ce que le gold peut aller chercher 3 000 avant de démarrer une longue phase de range ou une longue phase de correction? C'est l'objet de cette vidéo. Et c'est donc l'ensemble des choses que nous allons reprendre. Et la partie technique, si elle vous intéresse davantage, vous pouvez aller directement dans la partie technique, car j'ai tout chapitré. Vous avez la barre de temps en bas là, de la vidéo YouTube. Mais regardons d'abord les fondamentaux. Alors, pour que l'or aille chercher ses 3 000 $, après la phase de retracement qu'il a démarré début novembre, qui peut durer, j'y viens sur le plan technique, mais il faut rassembler tout ça. Et oui, ça fait beaucoup de choses. Il faut rassembler tout ça. Il faut pouvoir cocher chaque case de ce tableau. Alors, pour que l'or aille à 3 000 $ en 2025, il faut tout d'abord une tendance baissière du dollar américain. C'est un moteur qui ne contribue plus à la hausse ces dernières semaines, avec la forte réduction de la probabilité d'une récession US et la divergence macroéconomique zone euro-USA, alors qui est gigantesque. Je vous ai déjà montré ça dans l'émission Top Gun à travers les PMI composites pour les USA et la zone euro. Mais effectivement, la remontée du dollar américain est quelque chose qui a mis la pression sur le gold donc ces derniers temps, la remontée du dollar américain face à un panier de devises. Mais le dollar qui est revenu dans un haut de rang, je vous renvoie à mon émission Fast and Forex de la semaine dernière, et forcément, vous avez ici un des freins. Alors, c'est ce qui a freiné, c'est ce qui a bloqué le gold à 2800 et qui l'a empêché d'atteindre ses 3 000. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que dans le cadre de la guerre commerciale, Donald Trump, comme d'ailleurs ce fut le cas lors de son premier mandat, lors du premier mandat de Trump, où Donald Trump fera tout. Ça, il n'a pas d'impact direct sur la communication, sur le dollar US. Il n'a pas d'impact direct sur la politique monétaire qui est indépendante. La Fed est indépendante. Mais il a l'instrument de la communication. Et clairement, dans le cadre de sa guerre commerciale, il veut pas un dollar qui s'effondre, mais il veut éviter un dollar trop fort, artificiellement trop fort. Et lors de son premier mandat, il avait beaucoup utilisé cette arme de la com pour produire un effet bearish. Et d'ailleurs, les deux premières années du mandat de Trump ont été une vraie chute du dollar US. Si cela se reproduit, effectivement, vous aurez à ce moment-là un facteur de soutien pour le gold. Deuxième facteur majeur pour envisager que l'or aille à 3 000 $, il est impératif d'avoir une tendance baissière des taux d'intérêt nominaux, des taux d'intérêt réels. Alors, ces taux d'intérêt sont en baisse depuis l'année 2023. Ce sont des taux qui baissent progressivement, alternant donc rebond, impulsion, voilà, prenez ici le 10 ans américain, on a une correction, un rebond, une correction, un rebond, une correction, pareil pour le 2 ans américain, mais la tendance de fond est une tendance de fond baissière. Pourquoi ? Parce que les banques centrales occidentales ont pivoté, c'est que nous sommes au tout début de cette phase. Vous avez mis ici le taux d'intérêt nominal de la Fed, son taux d'intérêt réel, donc retraité de l'inflation. Et nous attendons, dans l'année qui vient, de manière très progressive, la poursuite du repli des taux d'intérêt des banques centrales. Alors bien sûr, ce sera toujours en lien avec l'inflation, l'emploi, mais ce sont des éléments qui vont continuer d'apporter du soutien à l'or. Alors maintenant, là, c'est un autre débat. La prime de risque géopolitique. Là, il y a une véritable incertitude. Car effectivement, tout le monde est d'accord que la prime de risque géopolitique, prime, c'est ce qu'on ajoute à la valeur de l'or en lien avec l'incertitude géopolitique. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va énormément dépendre de la politique extérieure de Donald Trump. Le conflit au Proche-Orient, bon, il y a un cessez-le-feu, là, en tout cas au nord. La situation entre l'Ukraine et la Russie. Et sans oublier la relation Chine-États-Unis-Taïwan. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors beaucoup me disent, oui Vincent, mais Donald Trump, ça va être l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Du coup, voilà, ça va faire dropper l'or. Effectivement, mais il y a d'autres conflits, n'oublions pas l'Iran. Donc effectivement, à court terme, il y avait depuis 2 ans un alignement de tous les conflits ensemble, et donc la prime de risque géopolitique a joué à plein régime. Effectivement, il faut s'attendre à ce qu'en 2025... s'il y a des avancées, des solutions, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais un accord de paix X, forcément, oui, ça enlèvera de la valeur, alors, puisque ça abaissera sa prime de risque géopolitique. Mais la tendance de fond, les incertitudes géopolitiques ne vont pas disparaître comme ça tous les conflits à l'échelle du monde. Alors, à moins que tous les conflits soient réglés par des super accords, et en tout cas, ça va être quelque chose à surveiller et qui sera beaucoup moins homogène, en tout cas, qu'en 2023. Et en 2024. Pour que l'or aille à 3 000 $, alors je ne suis pas en train de dire que pour que l'or aille à 3 000 $, il faut des guerres partout et des guerres qui se poursuivent. Clairement, hein, nous préférons tous des accords de paix et un effondrement de l'or qu'une envolée de l'or et la guerre partout. Bon, alors ensuite, la demande financière aux financières qui pèse quand même. En fait, qu'est-ce qui compte vraiment? Ce sont les ETF US. J'ai voulu vous rappeler ça, ça me paraît être une information importante. Je suis toujours sur le site du World Council, donc j'ai toutes les datas. Et regardez comme c'est intéressant. Vous avez ici donc la valeur des ETF Gold par région. Et ils sont classés en tenant compte d'un critère qui est donc l'AUM pour l'Asset Under Management. Et donc la valeur totale des ETF Gold, c'est 278 milliards de dollars. Mais regardez la part des États-Unis. Et ce sont les ETF Gold US qui sont les plus dynamiques. En clair, pour que l'or aille à 3 000 $, il faut la poursuite des inflows sur les ETF Gold US. Et alors, en Asie, il y a eu énormément d'inflows sur les ETF Gold, notamment en Chine, mais ça pèse beaucoup moins en AUM. Par contre, voilà, clairement, la clé, ce sont les États-Unis. Regardez, c'est vraiment là où il y a eu des inflows. Et ces ETF US, on le voit très bien ici, où vous avez les inflows sur les ETF Gold en tenant compte de la région. Et regardez, dans la poussée de l'or vers les 2 790 $, ce sont vraiment les ETF des États-Unis qui sont au-dessus de zéro, qui ont poussé. Et ces ETF US Gold, attire des capitaux lorsque le dollar est en baisse et lorsque les taux d'intérêt US sont en baisse. Et cela est lié directement à la macro américaine, à l'inflation et à l'emploi, des éléments fondamentaux que je suis régulièrement avec vous dans l'émission Top Gun du lundi. Pour que l'or aille à 3 000 $, il faut bien sûr un arbitrage favorable vis-à-vis des autres classes d'actifs. Alors en particulier du côté du marché action, le marché action américain, alors qui est sur ses, un nouveau record historique si on tient compte du S&P 500, le marché action américain qui est sur un record de valorisation, alors pas historique, mais ici si vous tenez compte par exemple du price earning de Shiller du S&P 500, nous sommes revenus exactement à ce que fut la valorisation du marché américain fin 2021, avant le bear market de 2022. Bien sûr que ça peut aller plus haut, bien sûr que c'est faussé par le poids de la tech, et je vous renvoie vers mon émission Top Gun que j'ai fait sur le sujet il y a maintenant 2-3 semaines. Mais s'il y avait à un moment ou à un autre, quelque part en 2025, un haut cycle sur les actions américaines, cela pourrait apporter du soutien au gold. Bon, le débat bien sûr sur la probabilité d'une récession aux États-Unis, en Europe, l'or a tendance à bien se comporter en récession, les États-Unis n'y sont pas, l'Europe est proche de la récession technique. N'oubliez pas la demande des banques centrales. À la demande des banques centrales, beaucoup s'inquiètent parce que la Chine a cessé d'acheter de l'or, mais c'est normal, elle en a acheté tellement bas qu'elle s'est calmée depuis quelques mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Inde a pris le relais selon les dernières datas du World Council, donc ça va continuer. Donc la demande d'or des banques centrales, va continuer d'agir. Et effectivement, si vous prenez dans les différentes composantes de l'or, les banques centrales sont en rose. On voit qu'il y a une diminution trimestre après trimestre. Mais c'est parce que la Chine s'est retirée du jeu. Mais l'Inde vient d'arriver. Donc, ça, je pense que c'est un facteur. Il n'y a pas que l'Inde. C'est un facteur qui va continuer d'apporter du soutien au gold l'année prochaine. Et bien sûr, la clé pour que l'or aille à 3 000 $ et donc n'ait pas fait son point ou à 2 800. Je ne dis pas que j'y crois, hein. Je vous commence par un exposé des fondamentaux qui comptent. Bien sûr, la demande physique, alors l'industrie de la joaillerie en Chine et en Inde. En Inde, c'est bull run absolu, ça fait des nouveaux records mois après mois. En Chine, c'est un peu plus faible, mais nous attendons beaucoup des mesures de relance massives qui ont été annoncées d'un point de vue monétaire et budgétaire par le gouvernement chinois en septembre dernier et qui devrait, dans le courant de l'année 2025, produire ses effets sur la consommation des ménages. Et je vous rappelle que s'il y a une demande forte en joaillerie gold en Chine, c'est parce que les Chinois en achètent un max, ils s'offrent des bijoux, l'or a une place dans les relations sociales chinoises beaucoup plus importante que la place qu'il a dans les relations sociales en Occident. Et donc toutes ces mesures massives qui ont été engagées par le gouvernement chinois en septembre dernier vont produire leurs effets en 2025. Cela sera un facteur de soutien pour le gold. Alors, le gold, les conditions techniques pour ne pas renverser la tendance haussière de fond. Car effectivement, la tendance du gold, c'est une tendance haussière. Ok, très bien. Le marché a fait des objectifs de cours. Maintenant, y en a-t-il encore assez sous le pied pour, une fois la correction actuelle terminée, donc ça j'y viens pour le court terme, pour aller taper cette fameuse barrière des 3 000 $? Plusieurs façons de répondre à la question. Alors c'est parti, nous les reprenons dans l'ordre et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez structuré. En atteignant les 2 790 $, le cours de l'or a atteint des cibles théoriques haussières de long terme pour sa fameuse vague numérotée 5. Donc je vous ai remis ici le décompte de long terme du gold, donc on va prendre ça directement sur un graphique en temps réel, je vais me remettre ici en données mensuelles, hop, boum, 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 donc voilà, nous sommes dans le cycle actuel, dans la vague 5, c'est la vague finale, 1, 2, 3, 4, 5, impeccable. La 3 n'est jamais la plus courte, mais bon, la 1 est tellement courte qu'il n'y a pas de stress, la 5 peut se développer. L'idée c'est, est-ce que cette 5 s'est terminée ici, donc j'ai mes extensions de vague 5, ou est-ce qu'on va taper 3000? Donc ça, cette target des 2700, je vous la propose depuis ici, fin 2023. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a un mois et demi en disant, bah, les amis, écoutez, moi, je vous proposais une cible qui a été atteinte. Donc voilà, c'était factuel. Maintenant, le marché s'est simplement stabilisé. Mais on voit que ça fonctionne. Ce sont des cibles théoriques. Très bien, nous sommes un no man's land technique, il n'y a pas de référence passée. C'est pas parce qu'on a atteint des cibles théoriques que c'est la fin du bull market. Ça marche pas comme ça. Atteindre des objectifs, c'est bien pour prendre ses bénéfices ou en partie remonter les stops. Mais pour valider la fin d'un bull market, il faut valider une figure de renversement baissier. Comme ici, ce fut le cas ici avec cette espèce de double top et ça avait pris plusieurs mois. Donc, première chose que nous allons voir, est-ce que les 3 000 $, première question, les 3 000 $ sont-ils en dehors du champ possible de la vague 5? Alors, la réponse est oui en échelle arithmétique, mais non en échelle logarithmique. Et si vous voulez, nous sommes sur des écarts de prix tellement importants que c'est, moi, il faut toujours jouer entre les deux échelles. Donc, reprenons ensemble ce décompte de la vague 5 pour voir où est-ce que nous en sommes. Alors, ici, je suis donc en échelle additive, normale. Donc, l'échelle additive, le principe, vous le connaissez, c'est très simple. Vous avez un écart équivalent au nombre de dollars. Donc, l'écart sera le même entre 1050, entre 1000 et 1050, contre 50 et 100, un écart de 50 dollars. Oui, mais sauf que, entre, si vous passez de 50 à 100 dollars, vous gagnez 50 dollars. On est d'accord. Si vous passez de 2700 à 2750, vous gagnez aussi 50 dollars. Sauf qu'en passant de 50 à 100, vous doublez votre capital. Alors qu'en passant de 2007 à 2750, vous ne doublez pas. Donc lorsqu'on arrive comme ça sur un marché qui est passé de 1000 à quasiment 2008, c'est pas stupide de passer sur une échelle multiplicative ou logarithmique. Donc en échelle arithmétique, mes targets de vague 5 sont faites. Et notamment le 0.618 d'extension et le une fois l'extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 5. Donc c'est pourquoi j'avais fait une vidéo il y a un mois sur le sujet. Maintenant en échelle multiplicative, en échelle logarithmique, eh bien non, puisque une fois l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 donne du 3200$. Donc, en échelle arithmétique, il n'est pas concevable d'aller chercher les 3000$. En échelle additive, en échelle multiplicative ou logarithmique, comme vous voulez, oui, ça reste dans les cordes d'aller chercher les 3000$. Donc ça, c'est déjà une première chose. On peut avoir donc une target de vague 5 qui rentre dans les clous, qui rentre dans les clous de cette target. Alors, au-delà des objectifs de cours de la vague 5, au fond, on se pose la question de la préservation de la tendance haussière. Car tout ça, c'est bien mignon, qu'il y ait des cibles théoriques, ok, c'est un peu au doigt mouillé, bon, enfin, en tout cas, c'est le FIBO. Mais la préservation d'une tendance haussière repose d'abord sur la préservation des supports dynamiques de cette tendance. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. N'oubliez jamais ça. Une tendance se retourne plusieurs fois, ne se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Il faut donc une pattern chartiste pour retourner à la baisse une tendance de fond haussière, une longue phase de distribution. Au stade actuel, cette longue phase de distribution n'existe pas. Ce fut le cas en 2011. Ce fut le cas en 2011-2012, où vous aviez eu donc cette belle phase haussière, et vous étiez arrivé ici avec une figure de distribution et la cassure de la pattern par le bas. Et là, le signal de la fin, et on a eu quasiment 2 ans et demi, 3 ans de bear market. Au stade actuel, vous n'avez pas ce type de pattern. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Mais au stade actuel, nous n'avons pas ce type de pattern. Alors, ensuite, moi je vais faire simple, il faut surveiller les supports dynamiques, écoutez. Moi, je vous propose de mettre sous très haute surveillance les supports qui guident la tendance haussière depuis le bottom du mois d'octobre 2023. Donc, depuis le bottom du mois d'octobre 2023, ici, hein, donc cette phase qui a permis le dépassement, ici, du record historique qui avait été atteint ici en août 2020, donc avec le Covid, et voilà, l'ancien record historique, et donc tout ça est passé fin 2023, début 2024, et on est parti en bull run. Moi, je vous propose de mettre sous surveillance 3 supports dynamiques. Tout d'abord, la moyenne mobile à 30 semaines, chère à Stan Wallstein, qui fonctionne bien dans les cycles. Et vous voyez que sur le cycle précédent, c'est lorsqu'on a commencé à la travailler qu'elle s'est mise à plat que c'était fini. Là, elle est là. Donc, bon, pour l'instant, d'après elle, la tendance reste haussière. La moyenne mobile à 200 jours, la plus surveillée par les institutionnels, qui est ici. Et cette trend line du cycle bullish qui a permis la cassure de la TH. Donc au final, le gold, eh bien, d'un point de vue technique, tant qu'il se maintient au-dessus de ça, c'est bullish. Et donc, en fait, ça donne 2400$. Donc, au final, effectivement, il marque le pas depuis la victoire de Trump. Mais au final, là-dedans, c'est juste une figure de transition latérale. Il peut très bien faire une structure comme ça, revenir s'appuyer sur le support et repartir à l'assaut des 3000. Ou faire une phase de trading range ici et repartir à l'assaut des 3000. Tout ce que je veux vous dire, c'est que cette tendance haussière reste active tant qu'il n'y a pas de cassure de support majeur. Et le support majeur que j'identifie, c'est le niveau des 2400$. C'est la moyenne mobile à 200 jours. C'est ça donc qu'il faut surveiller. Pour au stade actuel, donc cette tendance haussière de fond reste préservée. L'or peut-il résister à Bitcoin et ses ETF? Est-ce que Bitcoin et ses ETF menacent la tendance du gold pour l'année 2025? Cette question, il faut la poser. Peut-on comparer les choux et les carottes? Regardons les chiffres. Vous avez ici donc l'AUM, la valeur donc des ETF gold. On atteint un total donc de 285 milliards de dollars. Alors, vous avez ici un super outil qui compare tous les ETF Bitcoin avec tous les plus gros ETF du monde. Alors, vous avez les plus gros ETF Gold, vous commencez à les retrouver ici avec, vous voyez, par exemple ici, vous avez le SPDR Gold Trust de Gold Shares, donc qui capitalise 73 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas qu'un seul ETF Gold, hein, donc si vous les ajoutez tous au total, vous atteignez les 300-350 milliards de dollars. Et ici, vous avez les ETF Bitcoin, et notamment celui de BlackRock, qui atteint une market cap de 47 milliards de dollars, suite Grayscale 20 milliards, Fidelity 18 milliards, bref, vous faites la somme de tous les ETF BTC, et vous arrivez à 80-90 milliards de dollars. Donc, les amis, c'est pas rien. C'est-à-dire, en l'espace d'un an, dans l'espace d'un an, les ETF Bitcoin sont quasiment là à 100 milliards de market cap. On est quasiment à un tiers des ETF Gold, sauf que les ETF Gold sont sur le marché depuis plus de 20 ans. Donc, il y a effectivement un véritable attrait là, en termes des capitaux vis-à-vis de Bitcoin. Et effectivement, tous ces capitaux là qui vont sur les ETF Bitcoin et qui vont continuer d'y aller, même s'il y a toujours un cycle d'impulsion-correction, impulsion-correction, vous allez voir que l'année prochaine, en 2025, Bitcoin dépassera les 100 000 dollars, même les 150 000 dollars, qu'il va y avoir des flux de plus en plus importants sur ces ETF, et ce sont des capitaux qui ne vont pas sur le gold. Mais, rassurez-vous, comme je vous l'ai montré avec les données du World Gold Council, il y a toujours des arrivées de capitaux sur les ETF gold. Mais tout de même, il y a un arbitrage, et cela freine clairement l'avancée de la tendance haussière de l'or. Et ça la freine simplement, ça ne l'a pas renversé à la baisse, du moins au stade actuel, un tel signal technique n'est pas donné. Et enfin, vous avez donc un dernier outil qui est important, qui est l'étude technique du ratio Gold-BTC. Bitcoin-Gold, pardon, au fait, au numérateur Bitcoin, au dénominateur Gold. Et donc, si cette courbe est haussière, c'est que le numérateur surperforme. Donc, si vous faites Bitcoin sur Gold et que la courbe est haussière, Bitcoin surperforme. Et nous pouvons faire l'analyse technique de cette courbe. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Et effectivement, on peut voir que sur le très long terme, le ratio est haussier. À chaque fois qu'on arrive au contact de l'ancien record, on temporise et ça passe. Et là, Bitcoin Gold vient d'arriver au contact de l'ancien record historique. Ça temporise un peu, mais ça devrait, si on fait de la répétition de cycle, ça devrait passer dans le courant de l'année 2025. Et donc, effectivement, il devrait y avoir un meilleur comportement relatif de Bitcoin vis-à-vis du gold. Pour autant, cela n'est qu'un frein à sa tendance haussière, et donc en l'absence de signal, de pattern technique de renversement baissier, alors en fait, au final, pour résumer, tant que le marché tient sa moyenne mobile à 200 jours, eh bien, et même 30 semaines, eh bien, cette tendance haussière de fond n'est pas menacée. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce point sur le gold. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. Salut.